Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a 71 ans, la ville de Varsovie s'insurgeait contre l'occupant nazi. Franck Ferrand nous fait revivre aujourd'hui cette page d'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. On parle beaucoup, évidemment, ce 25 août, de l'anniversaire de la libération de Paris. Mais comme je le disais à Jean-Michel Apathy, c'est l'insurrection de la capitale polonaise qui va retenir aujourd'hui notre attention. Elisabeth Szlefziewski est avec nous pour revivre ces heures terribles à travers le cas exemplaire de son père.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Lucie sur l'origine du salut militaire.
Volontiers. Pour le moment, nous partons donc pour Varsovie.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Pendant que nous préparions cette émission, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, vous parlez de l'insurrection du ghetto de Varsovie ». Et effectivement, on parle très souvent de cet événement essentiel, très, très dramatique de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que le 19 avril 1943, la police et les SS, la police allemande, étaient entrés dans le ghetto. Et pendant près d'un mois, jusqu'au 16 mai 1943, la population juive de ce ghetto de Varsovie s'était soulevée, armée contre les forces d'occupation allemandes, avec énormément de morts. 7000 juifs ont été tués pendant la liquidation du ghetto. 7000 ont été ensuite tués à Treblinka et 42 000 autres ont été déportés vers des camps de concentration et de travail forcé du district de Lublin. Ça, c'est l'insurrection du ghetto de Varsovie. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un événement qui a lieu plusieurs mois après et c'est l'insurrection de la ville elle-même. Dites-vous qu'en juillet 44, la Pologne est depuis, on va dire 5 ans, oui, même plus de 5 ans en fait, occupé par les nazis, et Varsovie porte les stigmates des bombardements, des rafles et de toutes les misères liées évidemment à l'occupation. Comme beaucoup, à l'automne 39, après l'invasion de la Pologne, les grands-parents de mon invité d'aujourd'hui, Elisabeth Szlefziewski, qui étaient des petits commerçants aisés du centre de la capitale, ses grands-parents ont dû quitter leur appartement et leur charcuterie qui ont été détruits par les bombardements pour s'établir dans le quartier des Palais au numéro 9 de la rue Ordinatska. En ce mois de juillet 44, leur fils s'appelle Zbigniew Szlefziewski, donc on l'appelle Zbyszek. Ce Zbyszek, qui est le père d'Elisabeth, revient chez eux après 7 mois passés dans le maquis. Il fait partie de cette résistance polonaise extrêmement importante et sur laquelle nous allons revenir, bien entendu, en détail tout à l'heure. Il a 20 ans, Zbyszek, et depuis 2 ans, il est membre de ce qui est le plus important mouvement de résistance en Pologne. C'est une armée de l'intérieur, l'Armia Krajowa. Ce mouvement est né dès l'invasion, à l'automne 1939, et Zbyszek se trouve être caporal aspirant dans ce mouvement de résistance. Au sein de l'Armia Krajowa, qu'on va appeler l'AKA, Zbyszek s'appelle Rich, le lynx, c'est son surnom. Alors, enfin, c'est son nom de guerre, devrais-je dire. Il revient chez ses parents à Varsovie, donc, sur un ordre de l'armée de l'intérieur, et quelques semaines plus tard, il va être un des participants de cette extraordinaire insurrection de Varsovie. Le jeudi 27 juillet 1944, Zbyszek, qui a vécu pas mal de choses depuis son retour à Varsovie, depuis 15 jours, il s'est reposé quelques jours chez ses parents, ça lui a fait du bien, après 7 mois de maquis où il a vécu dans la forêt, où il a dormi dehors par moins 15 degrés, où il a fait frire des lichens pour pouvoir manger, vous voyez jusqu'où on est arrivé. Ce répit, néanmoins, a été de courte durée et dans les jours qui suivent, Zbyszek participe à une mission qui va devenir un véritable carnage. Une grande partie de ses camarades sont tués par des Russes dans la forêt de Konstantin en pleine nuit. Voilà ce que nous dit Elisabeth Szlefziewski. Elle nous dit « Ils s'étaient laissés piéger comme des bleus. Ils attendaient des camarades. En fait, camarades, c'étaient ces sauvages vendus aux Boches, réputés pires que les Boches qui avaient surgi. » Zbyszek s'en est sorti de peu, en se réfugiant chez un habitant d'un hameau près de la forêt. Il se remémorait les détails de sa propre fuite, nous dit Elisabeth, le plongeon dans un fossé humide, le contact d'un crapaud sur sa joue, ses mains crispées sur son stène, la détente gluante de vase, la rafale qui l'avait libéré de deux russos nazis tout près de le saisir. Juste après, la machine qu'il sentait s'enrayer, son affolement, et son soulagement quand il avait réussi à arracher le chargeur. Il était resté immobile dans son fossé, les Russes avaient dû le croire mort, puis doucement, à reculons, sans même oser regarder ce qu'il avait derrière lui, il avait rampé jusqu'au moment où des barbelés lui avaient labouré le dos. On peut dire que ça a été un moment parmi les plus pénibles de tous ceux qu'il avait pu vivre. Ce 27 juillet, donc, alors que ses mains et son visage sont encore marqués par les blessures occasionnées par les barbelés, Zbyszek se veut néanmoins optimiste. Il sait que les Allemands commencent à paniquer. Il voit très bien l'arrivée, l'avancée des troupes de l'armée rouge, des soviétiques qui sont de plus en plus près. Zbyszek trouva le quartier du centre-ville délicieusement animé, nous dit Elisabeth Schlesiewski. Sa lumière était douce, Varsovie revivait. Il remarqua que la rue de l'hôpital avait été replantée d'arbustes au tronc 5 fois plus mince que leur tuteur. Il a néanmoins le cœur gai. Il va jusqu'à acheter du pavot parce que ce pavot entre dans la confection d'une recette importante, localement le gâteau roulé, Makovietze. Mais à son arrivée au 46 rue Tamka à 11h, on n'est donc pas très loin de ce qui avait été la boutique et l'appartement de ses parents. C'est là que c'est dans au 46 de cette rue Tamka que se trouve l'armée à Krylova. C'est un des repères des résistants. Là, il se rend compte que les choses sont très sérieuses. Il y a un homme qui a 35 ans environ, impeccablement mis, qui se présente face à Zbyszek et à d'autres membres de l'AK et qui leur lance « Bataillon Union, 8e section, peloton 106, garde à vous ». Cet homme, c'est le lieutenant Beach de son vrai nom, Marian Mokrzycki. C'est un ancien directeur d'école du centre de Varsovie qui a fait de son établissement un véritable repère de la résistance. Il y a là maintenant une imprimerie, une station de radio, un centre de presse, une fabrique de munitions, et l'on ne peut pas s'empêcher de songer à l'insurrection d'autres villes, et notamment évidemment à celle qui va aboutir à la libération de Paris. Vous voyez qu'il y a des points de convergence, il y a des points communs dans ces deux histoires. Nous verrons jusqu'où on peut justement comparer l'insurrection de Varsovie et l'insurrection de Paris tout à l'heure. Beach, donc cette espèce de lieutenant là, explique que l'offensive russe progresse, que l'armée rouge, que les communistes polonais viennent d'entrer à Lublin, ou que même maintenant ils sont quasiment aux portes de Varsovie. Une colonne de chars soviétiques a été vue dans la banlieue de Varsovie, donc c'est la libération qui approche. L'objectif est clair, il faut que les forces nationales polonaises libèrent la capitale avant l'arrivée de l'armée rouge. Alors, Beach dit qu'il reviendra très bientôt. L'entrevue suivante est fixée 3 jours plus tard. Et Zbyszek, pendant ce temps-là, va devoir encadrer un groupe de 10 jeunes combattants. Mais il faut les former, bien entendu. Il a besoin de moyens pour les former, etc. Et voilà ce que lui dit Beach. Caporal aspirant riche, vous croyez peut-être qu'on va leur organiser un stage de préparation militaire dans la cour du Palais Brühl et des exercices de manœuvre à pied sur Adolf Hitler Platz? C'est à peine une question de jours, c'est une question d'heures à présent. À ce moment-là, on peut dire que tout le monde n'est pas d'accord au sein même de l'Armia Krylova. Certains pensent que les Allemands ont déjà quasiment capitulé, en tout cas dans leur esprit, qu'ils vont perdre, qu'ils vont s'enfuir devant l'arrivée des Soviétiques. D'autres sont plus prudents. Ils se méfient non seulement de la réaction des Allemands à cette nouvelle offensive, mais aussi peut-être surtout à celle des Soviétiques qui arrivent en libérateurs, mais libérateurs jusqu'où ? Tout le monde, dont Zbyszek, n'en est pas moins convaincu que l'insurrection est là, qu'elle va bientôt commencer, que ce n'est plus véritablement qu'une question d'heure.
De la nocturne numéro 20 de Frédéric Chopin, extrait de la bande originale du pianiste de Roman Polanski. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'insurrection de Varsovie.
Et oui, pardon, j'attendais je ne sais quoi. je me laissais bercer par le nocturne de Chopin, en vérité. Alors, nous sommes le dimanche 30 août. Une nouvelle réunion est organisée. Les agents de liaison sont convoqués pour le mardi... on est le dimanche 30 juillet, pardon. Et ils sont convoqués pour le mardi 1er août à 7h. Ça, c'est toute la question. Vous savez, il faut arriver à ce que tout le monde se coordonne. C'est une des principales difficultés auxquelles auront pu être confrontées les forces de résistance, pas seulement polonaises, bien entendu. Donc, comme prévu, le mardi 1er août, Zbyszek rencontre son agent de liaison qui lui dit que l'insurrection est prévue à 17h. Alors, où en sont à ce moment-là les forces en présence, c'est-à-dire allemands d'un côté, soviétiques de l'autre? Le gouverneur allemand a lancé dans les jours précédents un appel. Il a fait placarder des affiches sur les murs de la capitale pour ordonner aux Polonais de creuser les fortifications afin de lutter contre l'envahisseur soviétique. Ce sont les Allemands qui parlent, bien entendu. Et en échange, il promet toutes sortes de gratifications, notamment des confiseries. Ça paraît un peu étrange, mais enfin c'est ainsi. Les nazis fuient en vérité devant la menace de l'armée rouge qui est aux portes de Varsovie. Les avions russes ont lancé des tracts frères polonais. Varsovie qui ne s'est jamais rendue, qui est polonais et patriote, doit prendre les armes, etc. Enfin, ce sont des tracts de propagande, bien entendu, en polonais. Le samedi soir à 8h15, le commandement de ce mouvement de résistance, de l'AK, a capté sur Radio Moscou un appel en polonais très solennel dans lequel il est question des fils de Varsovie qui doivent se joindre aux communistes pour vaincre l'impérialisme prussien, etc. Évidemment, je n'ai même pas besoin de vous préciser qu'il ne faut pas prendre tout ça au pied de la lettre et que les Polonais ne vont pas tarder à déchanter pour ceux qui, en tout cas, auraient cru à ces jolies promesses. Il est 14h50, le soleil brille, il fait déjà vraiment très chaud au moment où le premier coup de feu retentit ce 1er août. Au 46 rue Tamka, vous avez de plus en plus de monde maintenant. Il y a des hommes, mais aussi des femmes, il y a des habitants de Powiśle. Il y a un frère dominicain parmi les gens qui sont là. Et à ce moment, l'armée de l'intérieur compte au total, dans la région de Varsovie, quelques 52 000 soldats. Les diverses forces armées de la résistance sont au nombre d'un peu plus de 1000. Beach demande de la discipline et rappelle que le nombre de munitions est limité, tout juste de quoi tenir 3 jours. Alors il faut utiliser les grenades, les pistolets avec précision, il faut prendre sur l'ennemi toutes les armes qu'on peut récupérer. C'est la problématique de toutes ces insurrections urbaines en fait. C'est-à-dire qu'on a peu d'armes, on a du mal à s'organiser et il faut récupérer le plus possible de munitions, bien entendu, pistolets mitrailleurs, fusils mitrailleurs, enfin tout ce qu'on pourra trouver. En face, le camp allemand compte 15 000 hommes, mais il y en aura bientôt 50 000 parce que les renforts sont en train d'affluer. Il n'y aura pas d'uniforme par ailleurs chez les insurgés. C'est très important ça, ils ont seulement des brassards de tissu rouge et blanc bien sûr, puisque nous sommes en Pologne. Beach prend la parole et voilà ce qu'il dit. Donc Beach, c'est ce lieutenant qui les commande tous. « Nous n'allons pas nous battre comme une armée normale qui rencontrerait une armée normale, d'accord? Nous comptons uniquement sur notre intelligence, sur notre volonté, sur notre enthousiasme, alors que c'est une bête malade que nous avons en face de nous. Moralement, nous sommes les plus forts. Notre ennemi sait qu'il a perdu la guerre, il est brisé. C'est pourquoi nos chefs ont fait ce pari. Simplement, il ne faut pas oublier que c'est un pari. Cet ennemi brisé peut être à la fois beaucoup plus facile à vaincre que par le passé, et beaucoup, beaucoup plus méchant. » C'est évidemment toujours la métaphore du fauve blessé qui est peut-être plus facile à achever, mais qui en attendant est beaucoup plus méchant. À 16h, Beach fait l'appel, chacun se me garde à vous. Le plan auquel se rattache cette insurrection a pour nom Bursa, la tempête. Le lieutenant donne ensuite à chacun une carte de combattant signée du commandant du district du centre-ville. Celle de Zbyszek porte le numéro 4778. La première mission, c'est de prendre le contrôle de l'université au nord de ce qui est le centre-ville. Cette université a été transformée en palais de la Wehrmacht. C'est un endroit stratégique qui compte de nombreux ennemis. Le signal de l'attaque sera donné par un tir de mortier et à 16h45 précise, il faudra se poster le long des jardins de l'université. Le poste de garde aura été désarmé par des camarades de la compagnie Mokotouf. Ceux de la première section du bataillon Union Kribar vont prêter main forte, mais ils passeront par une entrée. La jonction sera faite une fois que tout le monde sera entré à l'intérieur de l'enceinte. reste de l'université. On enfile les tuniques, chacun se passe au bras droit le fameux petit drapeau polonais, et puis tout le monde se serre autour du novice dominicain, les bras croisés, certains un genou à terre. N'oubliez pas que nous sommes en Pologne, on récite l'Ave Maria en latin et en polonais, puis le frère invite chacun à se recueillir et prier à haute voix. Restez avec nous, Seigneur, à tous les moments de ce combat difficile. Aidez-nous à être à la hauteur de ce que nous servons. Pendant ce temps, les détonations, les explosions sont de plus en plus nombreuses. On a l'impression que ça se rapproche dans les environs. 16h45, le signal est donné par un tir de mortier, comme prévu. Seulement, cette prise de l'université va tourner au fiasco. Le poste de garde n'est pas neutralisé, les grilles sont difficiles à escalader, les grenades sur les panzers contre les Allemands plus nombreux sont inefficaces. Il faut se replier comme on peut, le plus vite possible. Il y a pas mal de morts. Et en fin de journée, sous la pluie, on soigne les blessés. Seule consolation, les fenêtres pavoisées aux couleurs de l'Armia Krylova et la prise de la centrale électrique, un petit peu plus loin, à défaut. Après cet échec, il faut, la nuit arrive, hein, il faut ne surtout pas se laisser submerger. Une nouvelle mission est déjà fixée. Zbyszek va faire partie d'un petit groupe chargé d'aller faire diversion devant le quartier du commandant de la police à l'entrée du faubourg de Cracovie pour permettre pendant ce temps la construction d'une barricade de 100 mètres plus loin. Ce quartier du commandant est un point stratégique entre la vieille ville et le centre-ville. En pleine nuit, sous la pluie, deux mitrailleuses lourdes entrent en action au rez-de-chaussée du commandement de la police, alors que sur les trois niveaux supérieurs, il faut imaginer les fusils mitrailleurs qui sont là et qui attendent nos insurgés. Hein, bien entendu, tout ça se met à crépiter. Les grenades sont lancées depuis deux cachettes. Presque toutes atteignent l'intérieur. Elles allument des incendies et ces incendies, les Allemands vont peiner à les maîtriser. Seulement, les panzers qui sont là, stationnés tout près, avancent. Il est grand temps pour les insurgés de se replier. Auparavant, Zbyszek vide son chargeur sur les Allemands avant de se cacher. C'est pour lui le premier vrai succès. Là, oui, on a réussi une belle opération. Premier succès pour Zbyszek. Rassurez-vous, il y en aura d'autres.
Et tous les jours, vous pouvez réagir à l'émission, soit sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant sur Europe 1 pour la suite de son récit sur le soulèvement de la capitale polonaise. C'était il y a 71 ans.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et Franck Ferrand, cet après-midi sur Europe 1, nous sommes en 1944, au cœur de la capitale polonaise, pour revivre l'insurrection de Varsovie.
Alors cette insurrection de Varsovie a commencé le 1er août, je vais entrer dans le détail des premières opérations, mais il faut vous dire que ça va continuer pendant tout le mois, bien entendu. Cette insurrection harcèle les nazis dans tous les sens, si je puis dire. Les prises importantes se succèdent, la tour prudentielle, qui a été construite quelques années plus tôt, qui est une tour style art déco, la centrale électrique, la grande poste de la place Napoléon, la gare postale, la bourse, tout ça tombe peu à peu aux mains des résistants, aux mains des insurgés. L'arsenal de combat est pourtant assez faible. Tout est créé, on peut dire là, vraiment avec les moyens du bord. Pour éradiquer les snipers, on creuse une tranchée, on la camoufle par une bâche recouverte de gravats et grâce à des pièces trouvées un petit peu partout, on met au point des armes comme un lance-flammes par exemple. Un véhicule blindé va même être créé. Vous imaginez, c'est un tour de force. Un capitaine a déniché un moteur de camion Chevrolet abandonné par les Allemands et avec des pièces récupérées sur des panzers, il arrive à mettre au point un véhicule blindé capable de transporter 12 hommes. Pour se protéger de l'envahisseur, des barricades sont dressées un petit peu partout. Les habitants de la rue Ordinatska pouvaient être fiers de leur barricade, écrit Elisabeth Schlejewski. C'était un ouvrage militaire de toute beauté, conçu comme un bouclier contre les chars venus du faubourg de Cracovie. Elle était surtout constituée d'énormes tambours de bois, avec ou sans leurs câbles électriques, prélevés sur un chantier voisin. Vous imaginez, c'est ce qu'on pourrait appeler le système D, d'une certaine manière. Et ça marche néanmoins. Il faut se dire aussi qu'on utilise beaucoup les égouts pour passer d'un quartier à un autre. Évidemment, Zbyszek n'aime pas beaucoup passer par ces égouts. Personne n'aimerait, mais enfin, c'est le seul moyen à peu près sûr de communiquer. L'insurrection ne fait pas que se battre, par ailleurs, il faut le dire, ça c'est très important. Là encore, un point commun avec ce qui se passe à Paris, on crée une petite communauté qu'on va finir par appeler la République de Powiślę. Tout ce monde se réunit, quand je dis tout ce monde, les chefs se réunissent à l'étage d'une villa qui devient le quartier général des sections de l'Union Kribar. sous les arbres centenaires, les revues de troupes, les exercices de manœuvre à pied, enfin tout ce qu'il y a de militaire, puisqu'on essaie de s'organiser, d'être le plus officiel et le plus militaire possible, bien entendu, c'est là donc que ça a lieu sous ces arbres. On vient aussi en aide à la population qui en a grand besoin. On livre des caisses de lait pour des nourrissons. Au 5 août, 10 départements d'approvisionnement sont ainsi créés. Il y a des messes, bien entendu, des prestations de serment de scouts ou de volontaires au service de l'armée à Krelova, des concerts qu'on organise. Ça paraît étrange. Nous regardions un certain nombre, tout un jeu de photographies avant que ne commence cette émission avec Elisabeth et on voyait qu'il y a même des gens qui se marient, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une ferveur et une foi et un espérance qui ne meurt jamais dans cette situation de fin du monde. On ouvre bien sûr un hôpital pour les blessés et puis on écoute la radio. La BBC diffuse des émissions en langue polonaise depuis le 9 août, pour la première fois depuis 5 ans, entre parenthèses. Radio Varsovie va émettre de nouveau. Le commandement en chef de l'armée à Krajowa a aussi une radio. On lit les journaux clandestins, enfin qu'ils sont de moins en moins, bien entendu. Le 9 août paraît le premier numéro de la barricade. Alors, parfois, Zbyszek et ses camarades vont faire des découvertes inattendues, comme une maison occupée sans doute auparavant par un dignitaire nazi et dans laquelle on trouve de quoi manger pour plusieurs jours. Il y a des colliers de cèpes séchés, des bocaux de fruits, de la marmelade, du miel, du vin. Vous imaginez dans la situation d'extrême pénurie que connaissent tous ces gens, vous imaginez le bonheur de découvrir ce qui apparaît comme un véritable trésor. Mais malgré la résistance vaillante de l'armée à Krelova et de cette petite communauté mise en place, la menace nazie se précise car les jours passent et l'armée rouge et les alliés qu'on attendait, qu'on pensait là, qu'on avait vu dans les faubourgs et dans la banlieue, eh bien l'armée rouge n'est toujours pas là. Au lendemain du coup d'envoi de l'insurrection le 2 août, les représailles nazies ont par ailleurs commencé par une exécution de masse. Des prisonniers par centaines, jusqu'à 700. Vous savez comment faisaient les nazis, on leur a fait creuser leur propre fosse et ensuite on les a fusillés le long. Et parmi eux, il y avait des infirmières, des médecins, des jésuites, toutes sortes de personnes qui auraient été tellement utiles. Dans les jours qui suivent, des civils rassemblés en bas des immeubles sont fusillés, y compris de jeunes mères et leurs bébés. Des habitants sont enfermés dans des caves incendiées, les blessés soignés dans les hôpitaux. Ces blessés sont exécutés. Et au marché de Zieliniak, les habitants sont parqués pendant plusieurs jours. Les femmes, les jeunes filles, avant d'être tuées, sont soumises à des viols collectifs. 60 000 habitants au total seront massacrés dans un faubourg en l'espace de 3 jours. Et le 13 août, un char kamikaze, je ne sais pas comment on peut l'appeler, oui c'est ainsi, va tuer à lui tout seul 500 personnes. Vous imaginez, ces représailles, elles sont, disons-le, commises surtout contre la vieille ville qui est le véritable théâtre de cette barbarie du dernier espoir, ou plutôt du désespoir. Une vieille ville qui est un peu isolée depuis le début de l'insurrection du reste de Varsovie. C'était l'enfer sur la vieille ville, écrit Elisabeth, on le savait bien, mais sur la République de Powiśle, avec sa presse libre, son théâtre de marionnettes et ses services municipaux tout droit sortis d'un conte philosophique du temps du roi Stanislas Auguste ou d'une communauté de premiers chrétiens, et à vrai dire un peu des deux, les représailles allemandes furent assez longtemps ressenties comme des menaces distantes, ne se réalisant que séparément, ponctuellement. Et ça, c'est très intéressant de voir la différence qu'il y a en quelque sorte entre ces deux zones. D'un côté, l'espoir qui renaît dans un climat de liberté retrouvée, de ferveur, et de l'autre, l'horreur qui s'accroît chaque jour sous les représailles nazies. Au fur et à mesure que le mois d'août avance, la terreur ne s'en installe pas moins, elle gagne du terrain, car rien n'arrête plus les Allemands qui mettent au point des armes de plus en plus dévastatrices, des obus de mortier incendiaires. 6 obus de 57 kilos lancés en slave sont appelés la vache à cause de leur bruit de départ qui ressemble comme ça un meuglement d'une vache. Les mines sont nombreuses, les obus de plus en plus énormes. Quand je dis obus énormes, il y en a qui vont aller jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Hein, sont vraiment, on lance des projectiles épouvantables. La fin du mois d'août approche. Zbyszek, vous l'imaginez, est épuisé par ce qu'il apprend et par tous ces massacres, ces exécutions dont il a été témoin. Dites-vous que c'est un garçon de 20 ans. Et on regarde vers l'ouest. Est-ce que les alliés vont approcher? Quand on dit les alliés, c'est les anglo-américains essentiellement. Il n'approche pas, toujours pas suffisamment en tout cas, et à l'est, toujours pas d'armée rouge. La résistance devient difficile. Le 22 août, la cathédrale Saint-Jean, qui date du XIVe siècle, est transformée en barricade. On se sert toujours des égouts comme lieu de passage entre les différents quartiers de Varsovie. Combien de temps cela pourra-t-il encore durer ? Bonjour Elisabeth Schlejewski, merci d'être avec nous. Nous allons revenir sur le parcours de votre père, sur ce qui s'est passé évidemment pendant ce mois d'août terrible. Et puis on va bien sûr aller jusqu'à l'aboutissement et jusqu'à la libération de Varsovie.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
L'insurrection de Varsovie est au cœur de l'histoire sur Europe 1 cet après-midi. Franck Ferrand, vous recevez Elisabeth Schlejewski, philosophe et maître de conférences en sciences politiques à l'université de Strasbourg et auteur de Varsovie 44, récit d'insurrection paru chez Autrement.
Quels sont ces chants que nous entendons, Elisabeth, là, en ce moment même ?
Ce sont des chants qui ont, bien sûr, là, ce sont des enregistrements qui se sont faits à l'époque contemporaine dans de très bonnes conditions.
On a réenregistré les chants d'époque.
Ce sont des chants qui ont bercé, n'est pas le mot, accompagné cet immense sursaut insurrectionnel et qui sortent vraiment des profondeurs du cœur du peuple.
Ah oui, et qui sortent de cette espèce de peuple polonais qui est d'une ressource extraordinaire, oui. Qui a réussi dans cette circonstance à tenir tête et à survivre à la barbarie nazie. Alors pas entièrement, bien entendu, il y a eu beaucoup de laissés pour compte, il faut le dire.
Bien sûr, le peuple polonais est un peuple qui a malheureusement pour lui, l'expérience des oppressions et des insurrections, des partages successifs de son pays. Et ce dont nous parlons aujourd'hui, finalement, n'est que l'énième épisode d'une très longue histoire d'oppression et donc d'insurrection.
Et oui, c'est un épisode parmi les plus dramatiques, mais ce n'est pas le seul. On pourrait faire beaucoup d'émissions sur les malheurs de la Pologne. Enfin, pourquoi pas d'ailleurs évoquer d'autres épisodes un de ces jours. Alors, le Zbyszek dont je parle, c'est votre père qui avait 20 ans à l'époque et qui nous a quittés il y a très peu de temps.
Voilà, il aurait évidemment été très heureux d'entendre cette émission, d'entendre les beaux résumés que vous avez faits, Franck, et de m'entendre, bien sûr, parler de cette insurrection de Varsovie à laquelle il a participé dans la suite logique de son engagement dans l'AK, dans l'Armia Krajowa, qui, finalement, ses 17 ans, l'a happé, comme beaucoup de jeunes gens de son âge, pour la résistance contre l'oppression nazie, pour la défense de sa patrie. Mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas des abstractions. La résistance contre l'oppression nazie, c'est quelque chose qui va presque de soi, étant donné la dimension de cette oppression, étant donné la barbarie, la terreur qui a submergé la Pologne à partir de l'entrée des nazis en Pologne à l'automne 39.
Alors on va revenir justement sur cette occupation, sur les différents grands épisodes de ce qui s'est passé à Varsovie, mais il faut que nous terminions l'histoire, si je puis dire. J'ai laissé nos pauvres résistants de l'armée Krajowa, je les ai laissés en quelque sorte attendant l'arrivée des alliés et celle de l'armée rouge, personne n'arrive. Quand est-ce que l'armée rouge finit par apparaître ?
L'armée rouge n'interviendra pas. Comme vous l'avez dit, elle a incité de façon très pressante, avec ses tracts, avec ses appels de Radio Moscou, les Varsoviens à s'insurger. avec la promesse d'une intervention imminente qui géographiquement est parfaitement plausible, qui géopolitiquement est aussi plausible, même s'il y a un différend séculaire entre les Polonais et les Russes. Bien sûr, certains aujourd'hui disent mais comment ces résistants polonais ont pu être assez naïfs et pour tout dire assez bêtes. Hein. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils étaient stupides de penser que les soviétiques allaient pouvoir les aider. Mais on est dans une situation où des gens qui n'ont pas beaucoup d'affinités, c'est le moins qu'on puisse dire politiquement. Par exemple, au sommet, les Roosevelt et Staline peuvent être d'accord sur l'Union sacrée contre le Troisième Reich. Donc, pour beaucoup, bien entendu, les Russes ne sont pas nos amis, mais s'ils ont la possibilité matérielle de venir
secourir
à l'appui de notre insurrection. Ils ont finalement intérêt à le faire pour leur propre avancée, puisque
bien
leur
sûr,
cap
ça,
c'est
ça aurait été logique,
c'est
bien sûr. Oui, oui.
Et donc, il n'y a pas lieu de penser qu'ils ne vont pas le faire. Mais vous avez évoqué, on ne peut pas tout évoquer, bien sûr, hein, néanmoins, au sommet, dans l'état-major de l'ACA, des divergences extrêmement graves et tragiques. Hein, parce que la responsabilité de prendre la décision de lancer l'appel à l'insurrection, évidemment, était écrasante pour ceux qui...
Parce qu'on savait qu'il y aurait des représailles.
Voilà, même s'ils pensaient être avoir
légitime,
raison.
Légitime, oui, bien sûr.
Ils pensaient aussi que ceux qui étaient contre n'avaient pas tous les torts non plus.
Oui, bien sûr. Parce qu'on peut dire que la répression a été d'une violence incroyable. Cette insurrection de Varsovie est à la fois la plus importante qu'il y ait eu contre des forces d'occupation nazie dans toute l'Europe, hein, et en même temps la plus meurtrière, la plus sanglante. Ça a été terrible.
Voilà, parce qu'elle implique bien sûr des combattants, hein, qui combattent les armes à la main, Armia Krajowa et d'autres forces qui, par exemple, vous avez évoqué rapidement un millier d'hommes, par exemple, de l'Armia Ludowa, l'armée populaire d'obédience communiste, et puis aussi d'autres forces isolées qui viennent participer à cette insurrection. Et puis, il y a tous les civils. Hein, les civils, c'est ce qu'on théorisera plus tard sous le concept de guerre du peuple.
Eh oui.
Les civils, ils sont, bien sûr, même s'ils ne sont pas des combattants patentés...
Non, mais ils sont là comme des adjuvants, ils aident.
Ils aident même de très jeunes gens qui vont porter des messages, qui vont porter des vivres.
C'est plus qu'une guérilla, là, c'est bien un soulèvement dont on parle.
Alors, c'est un soulèvement.
Il ne faut pas confondre ça, et je dis ça pour les auditeurs qui nous rejoindraient, qui n'auraient pas entendu ma mise au point initiale. Il ne faut pas du tout confondre cette insurrection de la capitale, cette insurrection globale de Varsovie à l'été 1944, avec la célèbre insurrection du ghetto de Varsovie, qui a lieu 8 mois plus tôt, 7 mois plus tôt, oui. 16 mois
avril,
plutôt,
voilà,
oui,
avril 43.
Il faut expliquer ça peut-être.
Oui, alors ce qu'on appelle peut-être le mot insurrection génère-t-il une certaine ambiguïté. Je préférerais dire le soulèvement du ghetto. Et ça n'est même pas tout le ghetto. Le ghetto, il a été, bon, il y avait à peu près 500 000 personnes. Le ghetto, il a été vidé des 9/10 de ses habitants, si on peut appeler ça des habitants, enfin des gens qui avaient été parqués là dans des conditions plus qu'inhumaines. Et à partir de l'été 42, hein, l'armée allemande organise méthodiquement, comme elle sait le faire, avec des wagons qui arrivent jusque dans le ghetto, la déportation massive des gens qui sont parqués dedans. Et puis les nazis gardent, pour des raisons diverses, en particulier surtout pour servir à déblayer, puis il y a des gens qui arrivent quand même à se cacher, des familles, etc. Il y a à peu près 50 000 personnes qui restent là. Et dans une deuxième vague de liquidation, pendant l'hiver 43, les nazis décident maintenant de nettoyer.
Oui, voilà, oui, bien sûr.
Et ceux qui vont rester n'ont aucun objectif stratégique. Ils savent parfaitement qu'ils seront promis à la mort. Simplement, ils ne veulent pas.
Sursaut.
Voilà, ils ne veulent pas être déportés. Ils disent on veut mourir les armes à la main, on veut mourir sans se laisser égorger comme des bêtes d'abattoir. Et d'où cette insurrection. Il y aura ce soulèvement du ghetto. Il y aura à peu près entre 300 et 500 combattants proprement dit. Et puis des gens qui vont évidemment être victimes de ce terrible embrasement de ce qui reste du ghetto. Mais il faut bien dire que la majorité, l'écrasante majorité des gens qui étaient dans le ghetto, ils sont déjà partis depuis longtemps et partis à tous les sens du terme.
Alors donc, plus d'un an plus tard, c'est bien le soulèvement, alors partons cette fois l'insurrection des résistants polonais dans Varsovie pour libérer la capitale, à l'approche des troupes alliées d'un côté, des deux côtés, mais des troupes occidentales d'un côté, des troupes soviétiques de l'autre, en espérant pouvoir libérer la ville avant qu'elle ne soit libérée. Et finalement, cette insurrection, elle est un succès politique, il faut le dire.
Alors, on est exactement, donc, différence absolue avec le ghetto, différence qualitative. Le ghetto, c'est un geste de...
De sursaut.
C'est un sursaut moral,
moral
on pourrait dire.
Voilà. Hein,
ils n'ont aucun espoir, l'intention de chasser l'armée allemande.
Bien sûr.
Il serait vain de le penser. Là, on est dans de toutes autres conditions. Les nazis, vous l'avez évoqué, ils commencent à évacuer la capitale à partir de la mi-juillet. Hein. Ils sentent que ça va très mal pour eux. Et les Varsoviens, mon père me disait, même si les chefs n'avaient pas donné l'ordre d'insurrection, les gens étaient tellement écrasés par ces années de terreur que sentant la bête, comme vous l'avez dit,
blessée
et en train de s'effondrer et d'essayer de fuir. Hein, toute l'administration qui était très importante rassemble tous ces dossiers et évacue. Eh bien, les Varsoviens ont une soif absolue de vengeance. D'abord, il faut bien le dire, et veulent précipiter, faire tout ce qu'il est en leur pouvoir pour précipiter l'écrasement des Allemands, sachant très bien, alors ça ce sont des données objectives, hein, que le front ouest depuis le débarquement est enfoncé, le front est avance jour après jour, le compte à rebours a commencé pour l'armée du Reich.
Cette insurrection de Varsovie, vous vous en êtes fait l'historienne. Vous avez, dans un ouvrage publié chez Autrement, dans la collection Mémoire, réuni des récits de cette insurrection. Vous avez vous-même recueilli tous ces témoignages, tous ces récits. On va venir avec vous dans un instant sur ce que ça vous a permis de découvrir.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Franck Ferrand, vous recevez cet après-midi Elisabeth Schlefzewski, philosophe et maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Strasbourg et auteur de Varsovie 44, récit d'insurrection, paru chez Autrement, parce qu'il y a 71 ans, la capitale polonaise se soulevait.
Et oui, c'était une insurrection qui a été très longue. Il faut insister aussi sur cet aspect, parce que je parlais de la libération de Paris, mais là on est dans des échelles de temps beaucoup plus longues. Ça n'en finit pas, Elisabeth Schlefzewski.
Ça n'en finit pas. Ça va durer 63 jours.
C'est ça.
Hein, 63 jours avec à peu près 3000 morts par jour. Hein, si on calcule,
incroyable. Voilà.
Et ce que les insurgés avaient en tête, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup au scénario parisien qu'ils ne connaissaient pas. Mais le scénario parisien s'est déroulé d'ailleurs...
Ça, c'était le scénario idéal en quelque sorte.
Oui, voilà. Avec du côté à la fois des... de Leclerc et de ceux qui ont organisé la libération de Paris, mais aussi des alliés et notamment du commandement américain, l'idée qu'il ne fallait pas que Paris devienne une seconde Varsovie, puisque dans la deuxième quinzaine d'août, les alliés ne
on
se font plus aucune illusion sur ce qui attend l'insurrection polonaise.
Oui, ils savent très bien que c'est voué
Et les insurgés polonais, en fait, au début, ont exactement en tête le même scénario que celui qu'ont en tête les insurgés parisiens, c'est-à-dire on commence le job et puis les alliés, les Américains d'un côté ou pour les Polonais et les Soviétiques, viennent nous aider à finir le job.
Mais sauf qu'en Pologne, on se demande quand ils vont arriver.
Voilà.
Et ça dure et ça dure. Et pendant ce temps, la répression est terrible. Il faut peut-être insister sur le sort de la population civile. Vous avez des témoignages bouleversants dans votre ouvrage.
Des témoignages qui viennent à la fois de combattants et puis de civils. Hein, j'avais dans ma propre famille plusieurs personnes qui ont fait partie de l'Armia Krajowa, absolument. Plus à chaque fois la famille qui était derrière, hein, les conjoints, les enfants, etc. Et les civils vivent un véritable calvaire. On peut penser que c'est même pire pour les civils qui ne sont pas les armes à la main, les gens âgés par exemple, qui sont à la fois sous le feu des bombardements d'artillerie, des bombardements en piqué de ces terribles Stuka qui viennent comme des gros insectes larguer leur charge au ras des toits ou de ce qu'il en reste. Et puis voient aussi déferler devant eux les chars, hein, puisque dès les premiers jours qui ont suivi l'insurrection, les Allemands font venir des chars, et en particulier les derniers cris de leur gros panzer, les chars tigres, qui font d'ailleurs l'admiration de tous les combattants, tellement ils sont perfectionnés.
Il y a un décalage complet. D'un côté, il y a effectivement cette insurrection qui s'enracine dans une population fervente et qui aide les combattants. Mais d'un autre, il y a des gens surarmés et, encore une fois, blessés qui veulent se venger, pour le coup,
qui veulent vraiment faire le plus de mal possible et qui disposent de moyens surdimensionnés.
Bien sûr.
Vous avez évoqué toutes ces armes. Vous parliez du mortier qui est installé pas très loin d'ailleurs des forces soviétiques, sur l'autre rive de la Vistule, mais plus au nord. Un mortier qui s'appelle Karl, hein, qui envoie des obus de 2 tonnes 2.
Oh là là là, c'est incroyable.
Voilà.
Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire, mais oui. Ça veut dire que ce sont des projectiles monstrueux.
Monstrueux.
Hein. Oui, vraiment.
Sans compter, alors, il y a aussi ce terrible cette terrible petite arme, là, ce char miniaturisé, téléguidé, à l'époque il est téléguidé par un fil, qu'on appelle des Goliaths, hein, qui vont s'infiltrer dans les positions et derrière les barricades. Et la seule issue, la seule solution pour les insurgés, c'est d'aller leur couper la queue.
Le fil, hein, oui,
dans le film de Vaida Kanau, on voit d'ailleurs une scène où il s'agit d'aller couper le fil dans des conditions évidemment extrêmement
presque
périlleuses.
Presque impossible.
D'aller couper le fil de ce fameux Goliath qui sinon avance sur les barricades.
Alors les insurgés communiquent beaucoup par les égouts, hein, par ce réseau d'égouts, comme je le disais.
Alors il y a trois, une sorte de millefeuille, hein, urbain. Il y a la voie de surface qui est bien sûr occupée partiellement par les insurgés, de moins en moins, puisque leur périmètre se resserre. Et puis beaucoup par donc les blindés allemands et
contrôle la surface.
Troupes,
oui.
Voilà. Il y a en dessous les caves. Hein, la première
qui communique entre elles.
Qui communique. On a un véritable réseau de circulation avec des plans de circulation très bien organisés. C'est tout juste s'il n'y a pas des feux rouges, il y a des panneaux qui indiquent quelle est la priorité, des gens qui vont dans un sens ou dans l'autre. Et puis troisième niveau, les égouts. Hein, ces égouts qui vont être extrêmement précieux. Par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure la fin de la vieille ville.
Eh oui.
À partir des derniers jours de juillet, le commandement de l'ACA qui est dans la vieille ville va fuir par les égouts pour aller à Powiśle, qui est juste à côté.
Cette vieille ville, c'est elle qui a souffert principalement. Elle a été la cible, on va dire, de la répression des Allemands.
Alors oui, elle est le cœur, hein, elle est le cœur battant et de la ville de Varsovie et de l'insurrection, puisque c'est là qu'est l'état-major. C'est une ville très ancienne avec des maisons hautes et très étroites, hein, ces maisons avec des pignons baroques, bon déjà très endommagées par les terribles bombardements de septembre 39, mais qui qui est quand même encore le cœur de la ville, et se battre dans ce paysage est particulièrement difficile. C'est sur cette vieille ville que les Stuka en particulier concentrent leurs attaques incessantes. Et il faut bien penser.
C'est l'aviation, voilà, hein, c'est ces espèces de.
Les bombardiers en piqué.
Voilà, hein, qui font un bruit terrible.
Alors, qui font un bruit particulièrement terrifiant, qui précède évidemment le largage de leur charge. Qui sont d'autant plus meurtriers qu'ils évoluent en toute quiétude, hein. Il n'y a pas de DCA, les insurgés n'ont pas de DCA.
On est sidéré en lisant tous les témoignages de votre ouvrage, on est sidéré par l'équipement extrêmement minimaliste, c'est le moins qu'on puisse dire de ces insurgés, de cette résistance polonaise, bien moins armée que la résistance française, par exemple, il faut le dire.
Hein. Oui. Alors, d'autant qu'ils avaient des munitions, ils en avaient, bon, ça n'était pas extraordinaire, mais ils avaient réussi à accumuler des munitions, mais ils en avaient pour quelques jours, tant ils étaient persuadés que les Soviétiques allaient venir, comme ils l'avaient promis.
Alors, je ne voudrais pas poser une question qui paraîtrait polémique ou déplacée, mais est-ce qu'on peut comprendre que certains aient contesté l'utilité de cette insurrection, étant donné les conséquences effroyables qu'elle a pu avoir?
On peut toujours contester, rétrospectivement, une opération qui a échoué dans de telles dimensions. Comment ne pas dire pourquoi tout cela, hein, quand un soulèvement qui dure 63 jours, qui inflige un tel calvaire à une population, se solde par entre 220 et 250 000 morts. Donc, la question est de savoir si cette position de contestation est légitime historiquement, l'histoire, elle ne se fait pas rétrospectivement, ou l'histoire au sens de la recherche historique, ou le récit historique, mais l'histoire au sens de celle qui avance chaque jour devant nous, hein, celle qui est devant nous, eh bien, ce qui est devant à la fois les futurs insurgés, les membres de l'AK et la population de Varsovie fin juillet à la veille de l'insurrection, c'est la défaite inéluctable. Hein. C'est cette armée allemande arrogante qui les a terrorisés pendant des années, qui est en train de fuir, passez-moi l'expression, la queue entre les jambes. Et puis les soviétiques, le canon soviétique qui tonne.
Qui se rapproche,
oui. Voilà. Imaginez les Français, les Parisiens qui savent que les Américains sont du côté de Longjumeau.
Bien sûr.
Hein, c'est ça. Et imaginez que, étant du côté de Longjumeau, les Américains disent « bon ben, on s'arrête là ».
Pourquoi les Soviétiques n'ont-ils pas filé sur Varsovie de façon plus efficace ?
Alors là, on entre dans la géopolitique. Il est certain, une historienne, Alexandra Kwiatkowska-Wieto, soutient, à juste titre, je pense, hein, dans ses travaux sur la bataille de Varsovie, que c'est la première bataille de la guerre froide. Il s'agit, et c'est vrai tant pour les
on est déjà presque
tant
dans
pour
un autre
les Polonais
conflit,
que oui. pour les Soviétiques, parce que si les Polonais tiennent tant à cette opération Buja et à inscrire l'insurrection dans l'opération Tempête, c'est parce qu'ils veulent marquer ils veulent prendre date auprès des Soviétiques en disant voilà, il y a une Pologne qui, malgré la terreur allemande, est encore debout et qui sera là aussi pour vous accueillir et pour vous tenir tête quand vous penserez vous installer et pour exiger des élections libres, puisque ça a été le grand enjeu.
Merci beaucoup, Elisabeth Schledziewski. Une de nos auditrices ou auditeurs, je n'arrive pas à savoir, c'est sur Twitter, vous savez, nous demande s'il y a des vétérans de cette lutte contre l'oppression. Bien sûr qu'il y en a, puisque vous avez même recueilli leurs témoignages. Ils sont dans cet ouvrage, Varsovie 44, récit d'insurrection, donc d'août-octobre 1944, c'est édité chez Autrement dans la collection Mémoire. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette histoire qui touche bien sûr à la grande histoire, mais qui pour vous est d'abord une histoire familiale.
Et dans un instant, Franck, vous répondrez sur Europe 1 à la question de Lucille via Twitter qui se demande d'où vient le salut militaire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, c'est Lucille qui vous pose la question via Twitter avec le hashtag ACDH Franck. Elle se demande d'où vient le salut militaire.
Il me semble qu'on nous a déjà posé cette question, pour tout vous dire. Alors, en Pologne, tiens, justement, en Pologne, vous savez que pour saluer, on salue avec l'index et le majeur au front. Voilà, seulement les deux doigts comme ça au front. Vous savez qu'aux États-Unis, le salut est presque comme en France, mais la paume est tournée vers le sol. Bon, ben nous, la paume est tournée vers l'avant, bien entendu. On fait claquer l'autre main sur la cuisse. Enfin, ça me rappelle des souvenirs de service militaire, tout ça, mais évidemment, tout ça a pour origine un geste de paix. Afin d'éviter tout malentendu, il s'agissait de montrer clairement à l'ennemi sa main, hein, pour montrer qu'on n'était pas armé. Au Moyen-Âge, la signification de ce geste a évolué. À cette époque, on organisait, vous savez, des grands tournois. Et au moment des joutes équestres, deux cavaliers s'affrontaient face à face, munis d'une lance. Ils devaient charger sur l'adversaire afin de le faire chuter. Et avant de passer à l'action, les jouteurs, en signe de courtoisie, se croisaient à visage découvert. Rappelez-vous qu'à cette époque, on était habillé d'acier, hein, et ces armures qui vous protégeaient de pied en cap. Et afin de dévoiler le visage, les jouteurs portaient la main droite à leur aume dont ils faisaient lever la visière. Voilà l'origine, hein, exactement du geste. C'est un signe de respect qui donc a perduré jusqu'à nos jours en acquérant un caractère de plus en plus solennel. Pour ce qui est du salut militaire employé aux États-Unis et au Canada, la paume tournée vers l'intérieur vient d'une autre tradition. Autrefois, ce salut était dans la marine réservé aux officiers. L'équipage, dont les mains étaient salies par le goudron, cherchait à cacher la vision désagréable, hein, de la main complètement sale, bien entendu. Alors, pour ne pas exhiber aux officiers une main complètement noire, eh bien, ils cachaient leur main, ils la retournaient. On montrait plutôt le dos de la main que la paume. Voilà l'origine de ce salut. On pourrait entrer dans bien d'autres subtilités, puisqu'il y a quasiment autant de saluts militaires qu'il y a d'armées dans le monde. Mais globalement, vous voyez que tout ça puise sa source dans des gestes qui étaient d'abord, avant tout, des gestes de courtoisie.